bienvenue dans Le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Je suis Mégane Seguin, cofondatrice de Shareable, le nouveau hub d'échange entre les entreprises et les investisseurs. Ici, nous donnons la parole aux entrepreneurs les plus inspirants et innovants pour qu'ils vous présentent leurs projets, leurs visions et leurs ambitions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également à la rencontre des investisseurs et des fonds qui les accompagnent pour comprendre les enjeux et les défis de l'écosystème startup. Alors, êtes-vous prêt à écouter les histoires captivantes de ceux qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat? C'est parti pour le pitch par Shareable.
Bienvenue dans Le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans le monde des startups et des levées de fonds. Aujourd'hui, je suis avec Mégane. Bonjour Mégane.
Salut Joseph.
Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Robert, partenaire chez Kima Ventures. Bonjour Alexis.
Salut.
Alors Alexis, dans cet épisode, on va évidemment parler de Kima Ventures, mais pas que. On va essayer de comprendre quels sont les sujets d'actualité dans l'écosystème startup français et européen. Et aussi essayer de mieux comprendre les enjeux de 2023 pour les investisseurs et pour les dirigeants. Est-ce que ça te va ?
Oui, parfait, nickel.
Super. Donc pour commencer, on te laisse te présenter et présenter Kima.
Enchanté déjà et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Alexis, j'ai rejoint Kima en novembre 2015. Et Kima, qu'est-ce que c'est ? Kima, on investit 100 à 150 000 euros dans deux startups par semaine. On gère en fait les tickets de Business Angel de Xavier Niel. On est quatre dans l'équipe aujourd'hui. Donc il y a Jean, Jeanne, un stagiaire qui est aujourd'hui Grégoire et moi. Et on a aujourd'hui investi dans presque 1000 startups. Donc ça fait beaucoup de startups. On se demande toujours comment on fait pour aider nos boîtes. En fait, la réalité, ça marche très bien. C'est que dans ces 1000 startups, en fait, il y a une centaine qui ont besoin de nous. Et dans ces centaines, à quatre, ça se gère bien. C'est que nous, elles ont besoin de quoi que ce soit, elles nous contactent, on est toujours là pour les entrepreneurs, on fait passer toujours les entrepreneurs avant le deal flow. Et voilà. Et ensuite, après, de l'autre côté, on a le réseau d'entrepreneurs de Kima, on a 1000 boîtes, et donc du coup, quand un entrepreneur a une question, il y a toujours un entrepreneur du portfolio qui a eu cette question-là, on fait un peu des événements pour que les gens se rencontrent, parce qu'entreprendre, c'est un chemin où on est vachement seul. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait chez Kima aujourd'hui.
C'est très clair. Est-ce que vous avez une thèse d'investissement en particulier ?
Aujourd'hui, en fait, on investit en pre-seed seed principalement, donc c'est-à-dire des levées de fonds, la taille des tours de table, c'est à peu près de 500 000 à plusieurs millions, et on arrive dans les tours angel. On aime bien les tours qui sont un petit peu structurés, on ne soit pas tout seul, typiquement des tours de 200 000, 300 000, où on est une partie importante de l'investissement, c'est pas trop notre truc, donc des tours de pre-seed seed, 500 000 à plusieurs millions, où nous, on arrive dans la poche angel. On aime bien quand il y a du logiciel, parce que c'est ce qu'on sait faire en fait. Ensuite après il faut juste que soit la société soit basée en France, soit sinon si c'est à l'étranger il faut qu'on ait au moins un cofondateur français. C'est la seule contrainte.
Ça marche. Mais parlons maintenant si tu veux bien du contexte économique pour démarrer, pour enclencher un peu cette discussion. Il y a une étude qui est parue aujourd'hui et qui nous vient de vos confrères de chez Newfound qui indique, et ça m'a un peu étonné, que les investissements ont baissé de près de 73% là au premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente. Est-ce que tu as un commentaire et comment tu expliquerais ça ?
Nous, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait une grosse baisse en termes d'investissement. Ça a commencé par les séries C, puis ça a tapé les séries B, puis ça a tapé les séries A, et puis ensuite après ça a tapé le seed. C'est normal en fait quand l'économie en général n'est pas trop bien, surtout les valeurs publiques technologiques, et ben forcément quand on investit en série C dans une startup, on sait très bien que l'IPO, la rentrée en bourse, c'est pas loin. Donc en fait quand on regarde la valorisation dans laquelle on investit, si le comparable en bourse s'est éclaté, forcément, la valorisation est impactée. Donc, ça a en fait impacté en fait toute la chaîne au fur et à mesure. Ça a mis un peu de temps. Là, récemment, en début d'année, c'est vrai qu'on a remarqué beaucoup moins de deals et de deal flow en seed. Ça reprend un peu depuis quelques semaines. C'est sûr que cette année, on a beaucoup vu la vague du Generative AI. Donc, on a vu beaucoup, beaucoup de startups en Generative AI. Donc, en fait, le Generative AI n'a pas trop connu la crise en pre-seed seed. Mais le reste a été un peu souffert, quoi. Après, on sent que ça commence à reprendre un petit peu. Mais en général, il faut s'attendre à être revenu un peu comme en 2019.
Un retour à la normale.
Exactement. En 2019, on avait des projets solides, on levait des fonds. En vrai.
Alexis, c'est très bien que tu fasses un saut dans le passé. Toi, ça fait un petit moment que tu es chez Kima, tu y es depuis 2015. Donc, ce serait intéressant d'avoir ton avis sur les tendances un petit peu de fond sur l'économie et l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces transactions en seed et en pré-seed. Je pense que tu as dû voir des évolutions. Est-ce que tu as pu remarquer des cycles? Est-ce que finalement, on revient toujours à certaines bases? Comment se comporte le marché quand ça s'affole en termes de valo? Donc, un petit peu ton avis sur ces tendances structurelles qui impactent le day-to-day des entrepreneurs.
Il y a beaucoup de questions en une.
C'est vrai que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu énormément d'argent public qui a été injecté post-Covid. Cet argent public a beaucoup allé dans les fonds d'investissement et beaucoup allé dans les startups. Ce qui a fait que ça fait mécaniquement, ça fait une explosion des valorisations. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans un marché où, en fait, à peu près tout partait. On montait un peu. On suffisait d'avoir un bon CV, un bon truc. Dès qu'on montait un truc, on levait et ça partait. C'était devenu même un petit peu débile. Mais bon, après, les entrepreneurs en ont profité. Et moi, ils ont raison. Hein, à leur place, ils ont totalement raison de le faire. Oui, avec l'arrêt des politiques des banques centrales, plus les montées des taux d'intérêt, on est revenu à un stade. Bon, déjà, il y a eu tout le côté où en fait, les valeurs publiques se sont effondrées. Donc forcément, ça a touché peu à peu. Et ça, c'est dû aux arrêts des politiques des banques centrales et des montées des taux d'intérêt. Et ensuite, après, tout ça a impacté en plus les levées des fonds d'investissement. Toutes les valorisations étaient reset. Et on est revenu en fait un peu à ce qui est 2019 avant. Donc en fait, en 2019, qu'est-ce qui se passait? On avait un SaaS, c'est soit on était un second time founder, on arrivait à lever des fonds sans problème, soit sinon il fallait montrer un petit peu de solidité, un petit peu de début de product market fit, un petit peu de trucs. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'être, je trouve qu'on est un petit peu, c'est plus simple de lever des fonds qu'en 2019. Typiquement, parce qu'aujourd'hui, on a un énorme avantage par rapport à l'époque, c'est que il y a un écosystème d'employés qui s'est créé, qui ont été recyclés de société en société avec toute une connaissance qui est là. Donc typiquement, il n'y a pas que des second time founders qui réussissent à lever des fonds facilement, il y a aussi toute une vague qui sont les operators, tous les gens qui étaient VP ou des postes hauts dans les boîtes, qui aujourd'hui en fait ont fait trois boîtes différentes, trois startups différentes, ont pris plein de best practices et en fait aujourd'hui ils redémarrent des boîtes. Donc ça, c'est ce qu'on voit de nouveau aujourd'hui, qu'on n'avait pas en 2019, on avait peu en 2019, et voilà. Sinon, c'est normal, hein. C'est quand on monte une boîte, quand on veut lever des fonds, il faut monter un petit peu de fondamentaux, quoi. Mais voilà, il y a cette nouveauté qui est les anciens opérateurs qui peuvent beaucoup plus facilement lever des fonds qu'il y a quelques années.
Ouais, moi j'avais un commentaire et tu me diras si c'est correct. En plus de ça, on a aussi l'impression que pour les tours aussi des pré-seeds, les process côté investisseurs se sont aussi structurés. On voit beaucoup plus de réseaux de BA et même en termes de structuration, Megan, je pense que tu me rejoindras en termes d'organisation en SPV, c'est beaucoup plus carré et beaucoup plus simple maintenant. Et donc, mécaniquement, j'ai l'impression qu'on voit plus de business angels et de réseaux de BA dans ces tours-là, et donc plus d'argent pour les petites boîtes.
Exactement. Parce que là, on a parlé, là, ce dont on a parlé sur l'évolution de l'écosystème startup, on a parlé principalement de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir en fait le gros pic qu'il y a eu avec l'argent du Covid qui est redescendu. Ensuite, après, il y a ce qui s'est passé avant. Il y a eu quand même énormément de changements dans l'écosystème startup français qui ont été, l'écosystème startup a complètement explosé depuis 2015 en fait. Et progressivement, il n'a fait que s'accélérer quoi. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec l'écosystème des business angels, c'est l'évolution naturelle qui s'est passée aux États-Unis il y a très longtemps, qui ensuite après s'est passée à Londres et ensuite après est arrivée chez nous. Parce que l'écosystème anglais, en fait, c'est l'écosystème français, mais on enlève des années. On enlève quelques années, quoi. Et parce qu'il est plus mature que nous, donc il y a eu plus de cycles d'exit, plus de cycles d'employés qui ont été recyclés. Et c'est pour ça que ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est des choses qui sont arrivées en Angleterre il y a quelques années, et c'est des choses qui sont monnaie courante aux États-Unis. Et c'est la structuration naturelle des choses. Et c'est super, c'est trop bien.
Donc on va dans le bon sens.
On va dans le bon sens. Ça montre juste que l'écosystème startup français mature énormément. Et le fait qu'il y ait comme ça des recyclages de talents, des gens qui étaient des opérateurs qui maintenant montent des boîtes et prennent toute la connaissance qu'ils ont eue de l'écosystème, c'est génial. C'est trop bien. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, par exemple.
Moi, j'ai une question en plus sur cette période. Est-ce que, à ton avis, le logiciel, le mindset des entrepreneurs, il a évolué, il a changé en même temps que le marché?
Déjà, il a énormément changé. Moi, j'en souviens, en 2013, donc moi, j'ai monté des boîtes avant. Je suis un très mauvais entrepreneur, j'ai planté toutes mes boîtes. Et c'est pour ça que...
Est-ce que c'est être un mauvais entrepreneur que planter ses
boîtes? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est drôle de le présenter comme ça. Et en fait, en 2013, moi, je suis parti à Londres parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu d'écosystèmes start-up en France. Et à Londres, moi, je me souviens, j'ai fait Seedcamp. Seedcamp ne regardait pas la France. Aujourd'hui, Seedcamp, pour eux, leur core et géographie, leur géographie de cœur, c'est l'Angleterre et la France. Ça a énormément changé. Et à l'époque, en 2013, il n'y avait pas ce mindset en France de fake it until you make it, de un peu start-up, cet esprit à l'américaine. On était très français dans la façon de réfléchir, très... ingénieur, je suis ingénieur, mais très ingénieur dans la façon de faire, on vendait seulement des choses qui étaient prêtes.
Ouais, même le Lean Startup, parce que tu parles d'échec,
ça existait déjà un peu, mais c'était pas du tout dans le...
C'était pas courant en France.
Et en 2015, The Family a fait quand même un énorme travail sur le changement de mindset d'entrepreneurs français, et en fait, c'est un effet qui compound, qui fait effet boule de neige au fur et à mesure du temps, qui fait qu'on a l'écosystème d'aujourd'hui. Quoi. Essaie d'éviter d'utiliser des anglicismes. C'est pas facile.
Mais ça fait partie du mindset aussi de l'écosystème. Bon, et du coup, si tu devais donner des conseils à ces entrepreneurs, comment tu aiderais une startup à se préparer à lever des fonds aujourd'hui?
En pré-seed?
Oui.
Alors, c'est une très bonne question.
Quelle est la recette magique? Alors, dis-nous tout, Alex.
Déjà, le premier truc, c'est que comme l'écosystème, il évolue énormément, et surtout avec les changements économiques qui arrivent, c'est assez difficile de savoir où on se positionne. Quelle levée de fonds faire, quelle taille de tour, quelle valorisation prendre, etc. Bon, après, les valorisations, généralement, elles sont liées à la taille des tours. Généralement, les dilutions, c'est entre 20 et 25% de dilution, donc voilà, c'est lié. Quel montant lever? Qu'on peut faire, quelle avancée, qu'est-ce qu'attendent les investisseurs, etc. Et en fait, c'est une question d'asymétrie d'information. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs, soit les investisseurs le savent, mais ne le disent pas. Parce qu'en fait, y en a certains qui ne le disent pas. Il y en a certains qui le disent, il y en a certains qui ne le disent pas. Et parfois, il y a des investisseurs qui ne le disent pas parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes ce qu'ils attendent. Le job d'un investisseur, c'est qu'il voit plein de projets et relativement sur ces projets, par rapport à le furie ambiante et par rapport à ce qu'il peut déployer. Bon, en fait, ils regardent en relatif. Donc, parfois, c'est difficile pour certains investisseurs d'expliciter aux entrepreneurs ce qu'ils aiment ou pas. Donc, c'est une espèce d'asymétrie d'information qu'il faut casser. Et en fait, la meilleure façon de le faire, c'est que je pense que tous les entrepreneurs qui ont mis qu'ils étaient fondateurs sur LinkedIn se sont fait harceler comme pas possible sur LinkedIn par tous les associés de la place. Bon, en fait, c'est juste le truc qui est trop bien, c'est faire un catch-up. Nous, on dit vachement ça aux boîtes qui font des séries A. C'est juste de faire des catch-up, expliquer ce qu'on fait, dire qu'on ne lève pas encore, et ensuite après voir les réactions. Mais en fait, en voyant les réactions des investisseurs, si jamais ils vous disent tous « bon, bah en fait, c'est pas prêt » ou alors « non, mais on se revoit dans 6 mois », bah on comprend qu'il y a un truc, c'est pas totalement prêt. Si jamais tout d'un coup, ils s'excitent et ils disent « on vous envoie un partner meeting » et qu'il n'y en a pas que un qui a décidé de s'exciter, mais par exemple deux, on voit que les étoiles commencent à briller dans leurs yeux, là, ça donne des informations. C'est difficile à appliquer, mais parce que c'est en même temps, lever des fonds, c'est une sorte de jeu de poker où en fait, vous avez un jeu, vous ne voulez pas montrer vos cartes et vous voulez en fait récupérer les informations dans le jeu de l'autre, sachant que parfois, le VC ne sait même pas ce qu'il y a dans son jeu. Il n'a même pas... Donc, c'est un espèce de jeu de théorie des jeux. C'est complètement fucked up. Mais en fait, à partir du moment où on voit ça comme une sorte de jeu, là, c'est... Enfin, voilà, il faut vraiment voir ça comme une stratégie de sales, comme des sales, comme du marketing, comme quoi il faut casser en fait cette théorie des jeux. Quoi.
Ouais, on a eu plusieurs investisseurs dans cette émission qui nous ont dit à peu près la même chose que toi. Les retours qu'on a eus, c'est un exercice de communication avant tout, et c'est un jeu de séduction. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu es en train de nous décrire. Toi, tu abordes plus ça sous un angle, c'est un jeu de poker finalement, mais je pense que la métaphore est...
Après, moi je suis ingénieur, j'ai une façon de voir les choses très... assez mathématique.
Mathématique.
Je modélise des trucs.
Et du coup, juste pour rebondir aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant et finalement, c'est peu mis en œuvre par les entrepreneurs, c'est ce que tu as dit, une levée de fonds, ça se prépare. Parce qu'en général, ils arrivent en disant, bah, en fait, dans 2 mois, j'ai plus de cash, donc il faut que je lève maintenant. Alors que finalement, quand on est une boîte qui a besoin de cash et donc qui va être amenée à faire plusieurs tours de financement, on est tout le temps en levée de fonds.
Pas forcément.
D'accord.
Pas forcément. En fait, le problème qu'il y a, c'est que le job d'investi, c'est justement... Donc, il y a deux choses assez différentes. Il y a les VC de seed et il y a les VC de série A. Un VC de seed, pardon, son but, c'est de faire de la chasse. C'est-à-dire qu'en fait, il va voir des listes de profils, voir des boîtes, et en fait, quand elles sont construites, c'est que le projet est intéressant, bam, ils y vont, bam, ils term sheet. Le VC de série A, en fait, il sait que ces deals existent, que c'est des boîtes qui existent. Ils savent qu'en fait, ils vont refaire un tour dans un an. Donc, en fait, c'est un jeu de nurturing. En fait, ils vont proposer des cafés. Le but, c'est de créer une relation en amont pour expliquer que le fond, que voilà, je suis chez Index, je suis chez Axel, Axel, c'est très bien, etc. Ou voilà, venez chez moi plus tard, et de créer cette relation pour que le jour où les métriques arrivent, eh ben, en fait, Axel puisse arriver beaucoup plus vite, ou alors arriver même parfois en amont de phase. Donc, en fait, c'est... Les VC de série A fonctionnent vachement sur ce système de poker. En fait, ils veulent absolument faire des catch-up parce que leur but, c'est de récupérer de l'information et en même temps de se vendre. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, il y a des semaines où il se passe rien. Enfin, il se passe des trucs, mais bon, il y a des semaines où il y a pas trop de changements. Il y a des mois où, en fait, boum, d'un coup, les paliers se font. Si jamais on voit un VC trop souvent, on a tendance à pas pouvoir créer le waouh au moment de la levée de fonds. Si on voit un VC tous les 6 mois, on a l'impression qu'il s'est passé énormément de trucs en 6 mois. Et là, on peut créer l'histoire, etc. Si on voit un VC tous les mois, au bout d'un moment, il y a des mois, voilà quoi. Enfin, les métriques se sont pas faites, etc. Et donc, du coup, lui, il fait ah ouais, mais ça avance pas, etc. C'est ça qu'on veut pas avoir. Et pour créer cette FOMO, il faut pas faire des catch-up tout le temps. Faire très attention à ça. Il faut minimiser. Donc, il y a deux écoles, soit dire non au VC pour les catch-up. Là, je parle entre le seed et la série, hein, je parle pas pour avant. Soit dire non au VC, soit sinon voir certains VC une fois de temps en temps, mais espacer très fortement ces catch-up.
Donc maintenir un contact, mais pas trop quand même, pour créer un effet de surprise.
C'est un effet, c'est une stratégie de vente. Oui. Hein. C'est de la vente et du marketing. Hein.
Ouais, c'est des petites piqûres de rappel pour dire « et je suis là et je suis en train de faire des trucs vraiment géniaux ». Donc on rediscute quand j'aurai envie qu'on rediscute.
La meilleure arme qu'un entrepreneur a par rapport au VC, c'est la FOMO, c'est la fear of missing out, la peur de rater l'occasion. Donc en fait, en vrai, il faut utiliser cette arme. Si on voit tout le temps, si on fait tout le temps des catch-up, on enlève la FOMO. Il faut justement faire croire à l'investisseur que oui, on a une proximité, mais pas trop quand même, en fait. Et en fait, en vrai, ça peut te passer sous le pied, en fait.
Jeu de séduction, il faut savoir exactement. Se faire des
mais c'est pour ça, la levée de fonds, c'est soit... On accepte que c'est une sorte de jeu de vente, de jeu de séduction, de jeu de marketing. Et à ce moment-là, ça peut être marrant. Soit sinon, il faut l'accepter comme tel, il ne faut pas vouloir changer les règles du jeu. Quand on est entrepreneur, sa bataille, c'est de changer le monde avec son produit. Ce n'est pas de changer le monde de l'investissement, sinon vous faites VC. voilà.
Alors, petite précision aussi. Tu l'as déjà abordé le sujet, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'est le sujet de la valo. C'est vrai que la valo, en fait, ça occupe beaucoup de discussions en amont d'une opération de financement, d'une levée de fonds. Et toi, là, tu nous as dit, bah, en fait, la valo, ça dépend de la taille du tour et on sait que la moyenne de dilution, c'est 20-25%. Donc finalement, la valo, on s'en fiche un petit peu.
Donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est très simple, c'est que on regarde la taille du tour, on applique 20 à 25% de dilution s'il y a un investisseur professionnel. Si c'est que des angels, généralement, c'est un peu moins, c'est autour des 15. Et ça, ça donne une valo. Mais sauf qu'en fait, cette valo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, un sanity check, on va regarder les deals qui se passent actuellement et on regarde si jamais c'est cohérent par rapport à l'état d'avancée. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais si jamais la valorisation est trop forte, par exemple, vous voulez lever, je sais pas, 350 millions à 20% de dilution, bah ça fait une valo délirante. Bah forcément, c'est une boîte de seed, voilà. Et donc du coup, bah ça ramène une valo plus faible et en fait une valo cohérente. Et en fait, on enlève les 20% et ça donne la tête du tour. En fait, c'est juste que ça enlève un degré de liberté sur les calculs. Il faut savoir qu'il y a un truc que beaucoup de VC ne disent pas, que les VC ne disent pas trop publiquement, mais ça se sait. C'est que les VC ont une contrainte d'ownership. C'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur lead du tour, ou les VC institutionnels, certains ont des contraintes d'avoir, par exemple, 10% du tour. Et eux, ils ont un schéma dans leur fonds, modélisation de fonds, qui disent Ben voilà, en fait, nous, on pense que il faut, nous, notre fonds, il fait, je sais pas, 100 millions. Il faut que chacune des boîtes réussisse à retourner 100 millions. Sachant que je vois à peu près la probabilité pour que ça, cette boîte-là sorte ce montant-là. Et on fait les maths. Et en fait, on retombe, en fait, sur les données qui sont fixées. Mais ça, l'entrepreneur peut pas le savoir. Donc, à la limite, c'est pas très grave, il peut pas l'utiliser, tu vois. Mais, il faut qu'il, pour en revenir très simplement, en enlevant toute cette partie-là sur les contraintes d'ownership, c'est juste, on essaie de lever tant, on regarde le pourcentage de dilution, ça donne la valo, et on utilise la valo pour voir est-ce que c'est rationnel par rapport à ce qu'on voit.
Ok.
Ok. Et là, on a parlé de la valorisation. Donc, quand tu analyses un dossier, quand tu cherches à dealer, quels sont les critères pour toi ou ton équipe, hein, chez Kima, qui sont vraiment super importants? Qu'est-ce que vous regardez en priorité quand vous analysez un dossier pour savoir si vous y allez ou pas?
Alors, nous, c'est très simple. On a une thèse chez Kima qui est toute bête. 80% de la décision, c'est est-ce que le fondateur exécute, apprend vite et est passionné. Et 20%, c'est est-ce que ça peut devenir un truc gros. Voilà.
Et on, c'est simple que ça.
Tout simple.
Et comment tu jauges ça, justement?
En fait, le 80%, c'est on essaie de voir est-ce qu'il exécute, il apprend vite et il est passionné. Et en fait, c'est quasiment du recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit plein de fondateurs et au bout d'un moment, on pose des questions. Typiquement, dans est-ce que... comme dans un entretien de recrutement, on essaie de poser des questions pour essayer d'avoir ces informations, tu vois. Et c'est typique. Il y a trois façons de le faire. Premièrement, pour la rapidité d'exécution, c'est savoir dans les chiffres. On pose des questions, bah voilà, c'est quoi tes chiffres, etc. Et en fait, c'est pour ça que les investisseurs regardent plus la croissance des chiffres que le chiffre absolu. En fait, c'est comme ça qu'on voit la rapidité d'exécution. Est-ce que cette personne exécute vite, a pas le temps de niaiser, va vite, etc. Le deuxième truc, c'est la rapidité d'exécution dans la timeline du passé. C'est-à-dire qu'on pose la question, quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus, full time, quand est-ce que tu as sorti le MVP, quand est-ce que tu as sorti. En fait, on voit relativement que voilà, si jamais à 10 heures, j'ai vu une boîte qui en fait a mis un an et demi à faire son MVP, alors que c'est un produit tout simple, mais qu'il y en a un autre, il a codé le truc en un week-end, et ensuite après, trois jours après, il avait son premier client, bah, j'ai plutôt envie d'investir dans le deuxième. Tu vois. Et le troisième, c'est vrai que rapidité d'exécution, c'est comment est-ce que y a des gens, en fait, quand on leur parle, bon, voilà, ils émanent quelque chose, quoi. Alors, c'est pas très rationnel, hein, mais c'est comme dans le recrutement. Parfois, il y a des gens, on les voit, on se dit « Ah ouais, ils sont bons ». Ça, un fondateur, il peut pas trop travailler dessus à part faire des cours d'art oratoire ou je sais pas quoi. Tu vois. Et voilà, c'est ça.
Ouais, c'est le feeling, quoi. Tu mises sur l'humain avant tout.
On mise sur l'humain, mais ensuite après, on essaie quand même de regarder la rapidité d'exécution, soit dans les chiffres, soit dans la table l'année passée, pour voir en fait et reconstruire l'histoire. Et ensuite après, j'ai pas parlé de la passion.
D'accord.
Comment est-ce qu'on essaie de voir un peu la passion? C'est comment est-ce qu'ils ont eu l'idée? Comment est-ce qu'ils sont associés? Comment est-ce qu'ils ont trouvé les cofondateurs? Ce genre de choses. C'est pas parfait, mais c'est comme le recrutement, en fait. C'est pas une science parfaite, hein. C'est juste, on voit plein de gens. Au bout d'un moment, on voit un peu les patterns. Moi, je vois 10 entrepreneurs par semaine depuis 2015.
Et tout à l'heure, tu parlais de d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça qui sont un peu plus chauds que d'autres? Et où tu as tendance à investir un peu plus sur un trimestre ou un semestre?
Nous, en fait, on n'essaye pas de viser des secteurs chez Kima. Mais par contre, oui, c'est vrai que il y a des moments, il y a plus dans notre deal flow, il y a plus de boîtes Web 3, il y a des moments où il y a plus de boîtes AI.
Ouais, c'est juste ce que tu reçois.
En fait, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est juste investir dans des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des trucs cool, qui exécutent vite, qui apprennent vite.
Ok, très clair.
Sur des projets qui ont l'air de devenir des trucs gros. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, ici, il se trouve qu'actuellement, bah, les gens qui correspondent à cette liste-là, bah, ils font des boîtes de Generative AI. Bah, tant mieux.
Okay. Est-ce que, du coup, Alexis, tu peux nous parler des investissements récents de Kima, en précisant ou non le nom de la boîte, hein, ça dépend si le deal a été divulgué. Et puis, en nous disant que bah, voilà, les critères que tu as mentionnés par rapport à cet entrepreneur qui a réussi à lever de fonds étaient vérifiés. Et comment est-ce que tu l'as senti? Comment s'est passé le process, etc.?
Donc, on en fait beaucoup. mais un des investissements que j'ai fait mardi. Donc c'est une boîte qui sort du dernier batch de Y Combinator qui s'appelle Rollstack. Donc, Rollstack, c'est un outil qui permet de mettre à jour ses présentations PowerPoint automatiquement avec toutes les données qui sortent de Tableau, des Data Warehouse. En fait, il y a plein de gens qui sont plein de temps qui est perdu dans les boîtes pour mettre à jour des slides avec des rapports de chiffre d'affaires, de machin, de plein de data et tout. Il y a des teams entières dans les entreprises qui en fait juste prennent les données de Tableau, les recopient à la main, ça prend un temps fou quoi. Si jamais on pourrait avoir automatiquement toutes ces slides de rapports mis à jour en temps réel, il suffit juste de pouvoir cliquer sur un bouton et hop, c'est le temps gagné, c'est incroyable dans les boîtes. Et voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, on cherche à comprendre le process, comment un VC process ce genre de dossier. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu as reçu le deck et le moment où l'entrepreneur il a reçu les fonds sur son compte?
Oui, donc en gros, c'est Adam Lasry qui était avant chez Atomico qui m'a introduit au fondateur. On dit voilà, bah, en fait, Nabil, il est ouf. Et il est trop bien, il va vite, il est top, je te le recommande, quoi, vois-le. Donc je prends l'introduction, je discute avec lui, il monte une boîte de no-code. C'était un outil no-code pour pouvoir faire des applications internes, je crois, de mémoire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que l'équipe était toute petite, ils étaient trois. Ils avaient réussi à faire un outil, mais genre du feu. Parce que c'est surtout que c'est très compliqué de faire un outil de no-code, ça prend vachement de temps. Ils avaient, en quelques semaines, quelques mois, ils avaient fait un truc vraiment propre, quoi. Après, c'est compliqué les outils de no-code, c'est difficile. Donc, il y avait encore beaucoup de chemin. Donc, moi, j'étais pas prêt d'y aller encore. Et donc, du coup, on a passé en lui disant, bah voilà, tu me tiens au courant, on se recontacte, on se revoit dans quelques mois, etc. Machin. Puis après, il a fait YC. Et donc, du coup, moi, j'apprends qu'il refait un tour, je le recontacte.
Donc là, on est dans le wow que tu décrivais tout à l'heure.
C'est-à-dire
le wow effect où tu me disais, 6 mois après, j'apprends que, et là, ça, j'ai pas
le droit. Exactement. C'est exactement ça. Non, c'était exactement ça. Moi, j'apprends qu'il fait Y Combinator. Moi, j'avais adoré l'équipe. J'avais trouvé trop bien. Il se trouve qu'on avait, voilà, que j'aurais pu le recontacter pour faire un catch-up. Voilà. Mais on l'a pas fait entre temps. Moi, je sais qu'il lève des fonds. Je me dis, tiens, je vais peut-être rater le deal. Je lui envoie un message pour savoir comment il va. Et on discute ensemble. Il a pivoté. Il a pivoté sur ce qui est maintenant aujourd'hui Rollstack. Et en fait, moi, ce qui m'avait soufflé à l'époque était sa rapidité d'exécution. Et le fait qu'il soit très, très lean à 3, bah, était toujours là, quoi. Ce qu'ils ont fait en quelques mois post le pivot, c'est propre, ça avance, ça déroule, signe des clients comme pas possible. Et ils ont le product market fit, c'était un no-brainer. Moi, j'ai passé 30 minutes avec lui, à la fin de l'appel, j'arrêtais pas de lui dire que c'était trop bien. on n'en a même pas parlé en équipe et tout. Juste à la fin, c'était tellement évident que je lui ai dit bah go, tu vois.
Process de décision hyper rapide, au moins.
Bah après, ça dépend si on compte, parce qu'en soi, on s'était rencontrés en octobre 2021, et là, on est quoi ? On est en mars 2023. Ils ont mis en gros un an pour trouver leur product market fit et faire un combinator avant d'accélérer.
Et alors, une fois qu'un deal est fait, quelles sont tes attentes en termes de relations et de communication avec les dirigeants, les entrepreneurs dans lesquels vous avez investi ?
En fait, c'est pas tellement une attente. Nous, on n'a pas tellement d'attente. Nous, on est là pour servir les fondateurs. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que les fondateurs attendent de nous. On essaie de leur fournir. On considère que Kima, c'est un produit, en fait. Enfin, c'est un produit qu'on vend aux fondateurs, en fait. Et donc, nous, on travaille pas mal là-dessus. Après, honnêtement, la façon dont nous, on fait pour travailler avec les fondateurs, c'est qu'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ils m'envoient un WhatsApp, je suis là, quoi. Voilà. On aime bien avoir un reporting mensuel, mais voilà, si jamais ils en font pas et qu'ils aiment pas en faire, bon, bah, c'est pas très très grave, quoi. Mais on les pousse à le faire parce qu'on trouve que c'est bien, même pour eux, pour se structurer. Mais sinon, à part ça, on est dispo sur WhatsApp. Voilà.
Et tout à l'heure, tu parlais de réseau Kima. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Donc, en gros, ça, c'est un travail qu'on a vachement accéléré depuis un an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, on a 1100 startups. Et en fait, on n'était pas très, très actifs sur activer la communauté. Donc, on a fait pas mal d'efforts là-dessus. Typiquement, quand un deal close chez Kima, il y a un cold onboarding avec toutes les boîtes du mois où on présente un peu les outils, on présente la façon de travailler avec Kima. C'est un call de groupe. Et à la fin, les entrepreneurs du groupe se présentent et parlent un peu de leurs problèmes. Ensuite, après, on les invite à un verre avec les dernières boîtes des 2 derniers mois. Et juste pour que les gens se présentent. On fait un événement une fois par an, par exemple, où il n'y a pas de VC, il n'y a pas de partenaire, il n'y a que des startups de Kima. La dernière fois, il y avait 350 founders. Il n'y avait pas de VC, pas de partenaire, personne, il n'y avait que des founders, il y avait la liste en avant, et les gens, ils voulaient plus partir. Et c'est trop bien. et on essaye comme ça de faire soit des événements online. On a lancé ce qui s'appelle les Kima Octagon. C'est vraiment genre pour fighter ses problèmes. Et c'est un entrepreneur du portfolio qui est spécialisé dans une verticale. Par exemple, on a eu Jonathan Widowski de Maze, qui est un spécialiste de l'user testing, qui a fait ça sur l'user testing. En fait, c'est tous les entrepreneurs qui posaient leurs questions. Nous, on est vachement pour le pair-à-pair, la discussion entre entrepreneurs, et qui n'est pas un talk. Il y a quelqu'un qui présente un truc, on veut que ce soit des discussions de pair-à-pair. Donc, on fait à la fois des événements virtuels, à la fois des événements physiques, voilà, et on s'apprend à un Slack qui est actif, on a une plateforme en ligne où les gens peuvent avoir des intros. On essaie de faire des trucs un peu sympas pour que les entrepreneurs soient pas seuls, se rencontrent, se fassent des potes entrepreneurs, parce qu'en fait c'est crucial, les entrepreneurs ils ont besoin de potes entrepreneurs.
Et on a surtout souvent les mêmes problématiques, donc c'est vrai que l'entraide c'est assez crucial.
Du coup, on arrive à la fin des questions qu'on voulait aborder avec toi. On te remercie beaucoup, Alexis, pour cette présentation et pour ton analyse de la situation actuelle. Quel est l'avenir, la suite pour Kima?
Là, la suite pour Kima, c'est devenir encore meilleur sur la partie communauté. Genre, c'est créer une communauté d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui est difficile. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que... Voilà, j'ai pas envie d'utiliser le terme on veut être un YC à la française parce que c'est un peu pompeux, les gens veulent toujours faire des YC off, machin. Mais on a vraiment envie que voilà, les entrepreneurs aient envie de rejoindre Kima, pas que pour nous, mais aussi beaucoup pour le fait que bah, quand ils sont chez Kima, ils sont dans une famille d'entrepreneurs et en fait, ils peuvent discuter entre eux et résoudre leurs problèmes en discutant entre les entrepreneurs de Kima.
Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Alexis. C'était vraiment super d'avoir pu échanger avec toi. Si les startups veulent te contacter, comment elles peuvent faire ?
Bah, directement par mail, alexis@kimaventures.com.
Ok, merci beaucoup. Bah, écoute, merci pour ta disponibilité, tes conseils précieux. J'ai envie de clore cette émission, Mégane, Alexis. Donc, on terminera par un mot de la fin, Mégane.
Oh bah merci, Alexis. C'était top, le naturel avec lequel tu as répondu à ces questions et la spontanéité. Ce qui est cool aussi, bah, c'est que du coup, tu rends le VC accessible pour les entrepreneurs alors qu'ils ont peut-être tendance à mythifier, à avoir peur. Donc, merci pour ça et merci pour eux. Et l'idée de la communauté avec toutes vos participations, je pense que c'est génial et créer des synergies dès qu'on peut le faire, quelle que soit notre position. On essaye de le faire, nous, avec Shareable et puis dès qu'on peut. Donc,
Merci.
À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre émission Le Pitch par Shareable.